Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Enfin, vous avez hâte d'aller rejoindre vos moniteurs et votre groupe. Oui, c'est bon, j'ai des beaux signes de tête qui disent oui, oui, oui. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu aimes les enfants et qu'ils sont précieux à tes yeux. Et Seigneur, on te prie de mettre ta main sur tes enfants, sur leur petit cœur. Tu vois ces personnalités qui se forment. On te prie qu'ils te découvrent, qu'ils te connaissent personnellement, qu'ils puissent t'aimer et te suivre. Seigneur, bénis ce temps, soit avec les moniteurs qui vont les diriger, Seigneur. Et merci pour ce service, ce ministère extrêmement important dans ton Église. On te prie en ton nom. Amen. Hé, hey, vous pouvez y aller! Vous allez bien? Vous allez bien?
Oui!
Oui, ah, ça c'est bon. C'est... La chaleur vous a ramolli. Excellent. Dans la vie, on a besoin de faire la différence sur comment se réjouir qu'on fait le bien pour Jésus sans s'enorgueillir. Comment constater qu'on agit de notre mieux, hein? On est des chrétiens qui aimons Jésus. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole, observez-les. Donc, comment constater qu'on agit pour le mieux, pour le Seigneur, sans s'élever, sans se glorifier? Obéir à Jésus, chercher à lui plaire, offrir notre vie en sacrifice, hein? C'est tout là comme des pierres de fondation dans le Nouveau Testament et d'avoir un bon désir, c'est bien, hein? D'avoir une inspiration pour faire ces choses-là, c'est bien, mais de faire attention que ça ne devienne pas une élévation orgueilleuse. Donc, vouloir, c'est bien, mais il faut bien vouloir de la bonne façon. On continue dans une parabole. On va lire la parabole dans quelques instants dans Luc 18. Et dans Luc 18, verset 1, Jésus avait commencé à enseigner sur une parabole dans laquelle il disait qu'il faut toujours prier. C'est une parabole qu'on va voir dans les semaines à venir, Seigneur voulant, probablement. Et là, il poursuit avec une autre parabole. Proverbe 27:2 dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche. » Et dans ce passage-là, Jésus va être en train, par la petite histoire qu'il crée, hein, il va être en train de nous dire ce qu'il pense de celui qui se loue lui-même dans la prière. Dans l'histoire, dans cette parabole-là, hein, c'est les circonstances sont exagérées. On dit, oh, c'est évident, regarde comment il prie. Hey, moi, je prie jamais comme ça, mais on le fait pas aussi grossièrement, aussi directement que ce pharisien dans la parabole donnée par Jésus. Mais on a toutes nos tendances. Hein? On a tous quelque chose à apprendre. À apprendre à propos de notre perception de nous-mêmes. On va commencer par lire cette parabole. Vous l'avez ici ou encore dans vos livres. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus, dans notre étude des paraboles, très important, il faut que vous fassiez des petites lignes, là. Je sais pas, vous faites ça à l'encre, mais faites des lignes au moins dans votre tête de dire où est Jésus en train de raconter la parabole. Hein? Et dans notre passage, c'est au verset 10. Mais au verset 9, il faut toujours, le verset avant, regarder pourquoi il donne la parabole. Quel indice, quelle information. Et ici, on a la raison. La parabole a été donnée pour certaines personnes qui se pensent justes et qui ne font aucun cas des autres. Donc, la leçon va être à propos de ça. Donc, la raison nous est donnée. Ce genre de personne religieuse n'a aucun respect pour les autres. Cette personne existe et c'est ce qui compte. Il dit son idée, il suit son chemin et le reste importe peu. Et le reste, la plupart du temps, c'est les autres. Les autres, c'est le reste. Ici, il y a un mépris pour les autres. Les autres sont dans une catégorie inférieure et lui, il est dans une classe à part. Dans Proverbe, hein, on a ces deux versets. Il est une race, hein? Il est ce genre de personne, ce genre d'individu qui, oh, regarde comment il est. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Ici, on a de ce genre de personnes-là. Et ce qui est le plus difficile à accepter, qui est le plus fâchant, c'est que ces gens-là, qui sont hautains, qui ne font aucun cas des autres, sont ceux qui disent qu'ils sont les personnes qui aiment le plus l'Éternel, hein? Ils n'aimaient pas encore Jésus. Jésus était en contact avec eux. Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. L'Évangile, avec son complet message, était en train d'être annoncé, d'être formé. Mais eux, ils méprisaient les gens, mais ils disaient qu'ils étaient les grands défenseurs du Dieu de l'Ancien Testament, du vrai Dieu. Et la petite histoire de Jésus, dans cette histoire-là, il y a deux gens qui se rendent au temple pour prier. Un pharisien et l'autre publicain. Et c'est toujours important de connaître les individus que Jésus nomme, que Jésus identifie. Première catégorie, le premier personnage, c'est le pharisien. Est-ce que vous saviez ce que voulait dire le mot « pharisien » ? Maintenant, vous le savez. Ça veut dire quoi ? Pharisien, littéralement, ça veut dire « séparé ». Et c'était pas surprenant de voir un pharisien monter au temple. Il devait être là souvent. Pourquoi ? Premièrement, parce que c'était le lieu spirituel, là où on pouvait aller adorer l'Éternel, c'était le regroupement. Et quand tu as fait ta prière toute seule dans ta maison, puis qu'il n'y ait personne qui le voit, aussi bien aller où? Au temple, puis d'être vu. Puis donc, c'était pas surprenant parce que les pharisiens étaient très religieux et ils étaient très pieux. Probablement qu'ils ne soient pas au temple, ils devaient faire la même chose à la maison. Ils devaient faire la même chose pour ensuite dire, « Moi, j'ai eu mon temps de prière avec l'Éternel. J'ai ça à chaque jour. J'ai ça à chaque jour, matin, midi, soir, depuis X années. J'ai jamais manqué une journée. » Donc, notre pharisien, il est au temple. D'où ça vient l'origine des pharisiens? 150 ans avant Jésus-Christ, on sait qu'il y a eu toute l'histoire du peuple juif, hein, qui a été, il y a eu la déportation, ils sont revenus, ils ont reconstruit le temple, ils ont essayé de rétablir la vie religieuse, ils ont essayé de faire obéir la parole, l'Ancien Testament. Et 150 ans avant Jésus-Christ, il y avait eu des événements où le temple avait été souillé, profané, et il y en a des Juifs qui étaient pieux, qui étaient prêts à donner leur vie, qui ont résisté. Il y a une résistance qui s'est faite. Il y en a plusieurs qui ont payé de leur vie, qui ont été mis à mort. Et à ce moment-là est né le mouvement des pharisiens, des séparés de ceux qui n'acceptaient pas l'influence païenne. Donc, à la base, c'était bien d'être un pharisien. Tu étais comme un Juif 150 ans avant Jésus-Christ, qui a pris position. Même du temps de Jésus, les pharisiens préservaient la loi de l'Ancien Testament et ils essayaient de préserver le peuple des influences du monde, puis ils essayaient d'amener les gens à connaître l'Éternel, à lui obéir et à le servir. Donc ça, c'était une bonne chose. Mais leur problème, c'était l'orgueil. Hein, on peut faire un jeu de mots, on peut dire qu'ils se séparaient vraiment du peuple, hein, du peuple ordinaire. Eux, ils se croyaient supérieurs, à côté, dans une classe à part, et ils regardaient le petit peuple, Monsieur Tout-le-Monde, de haut, en croyant qu'eux, ils aimaient l'Éternel plus que les autres et qu'eux, ils obéissaient plus que les autres. En même temps, les pharisiens étaient le groupe, le mouvement religieux, le plus près de la vérité. Mais ils oubliaient, comme la plupart du temps, la vérité la plus importante, qui est l'amour. Ça, c'était le pharisien. Ensuite, on a le publicain. Publicain, on le sait un peu plus d'où ça vient. Les Romains occupaient le territoire. Pour garder une certaine paix, ils permettaient la pratique de leur foi, de leur croyance, mais ils n'allaient pas se priver des impôts. Donc, les Romains allaient recruter certaines personnes, des Juifs, Monsieur Tout-le-Monde, de dire, « Toi, tu vas être notre collecteur de taxes. » Travaillait pour les Romains. Déjà là, il était vu comme un traître. Et il leur fallait ramener à Rome un certain montant. Il y avait des quotas. À chaque mois, à chaque année, il fallait qu'ils aillent chercher tant d'argent. Tu te mets à telle place où il y a juste une route, puis tu as des soldats avec toi pour t'assurer que le monde paye. Et ils avaient la liberté de se mettre un peu plus d'argent pour se faire une belle paye. Et la plupart des publicains, c'est pourquoi le nom publicain, c'est « Ah! T'es un collecteur de taxes! » Regarde-moi, je ne suis pas comme lui, comme ce publicain-là. Il s'en mettait plein les poches. Et ils étaient vus, avec raison, comme des voleurs et comme des traîtres. Donc, on a ces deux personnages qui sont en train de prier. Quelle est la bonne attitude pour venir devant Dieu dans la prière? C'est ce que Jésus veut nous enseigner. Est-ce que les pharisiens connaissaient bien l'Ancien Testament? connaissaient ça du bout des doigts. Nous, comme chrétiens évangéliques, là, on est des novices à côté d'eux de leur connaissance de l'Ancien Testament. Et sûrement qu'ils connaissaient ce passage-là dans Ecclésiaste. On va le lire. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Hey, si on lisait ça avant un temps de prière le mercredi ou un temps d'adoration dans l'Église, hein, ça apaise notre cœur et on dirait que ça le remet à la bonne place de dire « Dieu, c'est déjà un privilège de venir dans ta présence. » Puis, je veux veiller sur les paroles de ma bouche, pas avec crainte parce que j'ai peur de toi, mais avec respect de réaliser combien tu es grand, combien tu connais plus de choses que moi, puis tu connais toutes choses, puis c'est plus à moi à t'écouter que moi à te parler. Merci de bien vouloir m'écouter, mais quand je vais te parler, ça va faire une différence. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on veut entrer doucement, avec prudence, dans la présence de Dieu. On veut écouter et ne pas trop parler. Notre pharisien connaissait, et tous les pharisiens connaissaient très bien ce passage et toutes les autres qui amènent un respect, une déférence devant Dieu, mais leur cœur n'était pas touché. Et nous, c'est toute une leçon, hein? Dieu est au ciel, nous on est sur la terre. On sait qu'on peut venir devant Jésus avec assurance, parce que Jésus a ouvert la voie qui nous mène dans la présence même de Dieu qui intercède pour nous. Mais le pharisien, parce qu'il se croit juste, vient dans la présence de Dieu, rempli de confiance. Il n'en a rien à faire des autres et il se permet même de dénigrer les pauvres pécheurs. Dans cette histoire, on peut dire que le pharisien a offert le sacrifice des insensés, qui nous est dit dans ce passage-là. Il a dit des choses très mauvaises devant Dieu. Assez souvent, les pharisiens priaient à voix haute, dans le but de se faire voir. Et Jésus vraiment dénonçait cette attitude-là de prier pour la galerie dans le but d'impressionner les gens, dans le but de recevoir leur admiration. Hein. En Matthieu 23, verset 14, Jésus a dit dans toutes les condamnations, là, les 13 malheurs de suite, un de ces malheurs-là, c'était « Malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous faites pour l'apparence de longues prières. » Et ici, dans l'histoire de Jésus, dans la parabole, c'était pas vraiment qu'il faisait des prières pour l'apparence, parce que de quelle façon il a prié? Il a prié, nous dit le passage, en lui-même. Donc, il a prié pas à voix haute, mais il a prié dans son cœur. Il savait qu'il était seulement devant l'Éternel omniscient qui connaît nos pensées, qui entend la prière de notre cœur, même la prière secrète. Il ne cherchait pas à impressionner personne au niveau humain, mais il pensait qu'il pouvait presque impressionner Dieu. Il se croyait réellement juste devant Dieu. Et là, c'est vraiment l'orgueil au maximum. Hein? Seigneur, une chance que je ne suis pas un voleur, un tricheur, un malhonnête, un croche avec l'argent, comme ce publicain, par exemple. Ça me fait toujours penser à une des chansons populaires, hein? une chance que moi, je suis pas comme ça. Le pharisien avait vraiment cette pensée-là, puis il pensait que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, allait être d'accord avec lui. Quand on prie, nous, est-ce qu'on a parfois de telles pensées qui nous passent par l'esprit? Seigneur, merci de ce que tu fais de ma vie. Merci pour la transformation que tu opères en moi. Merci parce que tu me permets dans ta grâce de grandir dans la sanctification. À date, on peut dire ça peut être pas si pire. Il y a du bon puis un peu du moins bon. Mais à un moment donné, il peut nous passer une idée de dire « Merci Seigneur que je suis pas comme tel frère que j'ai parlé ce matin qui est tellement immature, charnel, tellement instable. Il faut toujours aller le chercher. Puis merci que je suis pas comme lui. Hein? » Est-ce que ça nous arrive d'avoir des petits flashs, là, des petites pensées là, qui comme un oiseau qui passe puis de dire « Ah, ça c'est la pensée, mon Dieu. » Non, c'est correct, cette pensée-là, c'est la réalité, c'est de même. Imaginez que ce soit des pensées qu'on dit dans la prière d'une façon là, concentrée ou seulement des pensées qui partent dans notre tête. Comment ça doit résonner dans les oreilles du Seigneur? Ça doit gricher, hein? Votre prière était une douce mélodie d'adoration et tout à coup, les oreilles du Seigneur sont irritées et là, il ne peut plus écouter. Ça, c'était la prière secrète du pharisien. Il dit à quel point Jésus, Dieu, tu dois être fier de moi. Hein? Regarde comment je suis. Puis merci de... que je ne suis pas comme les autres. Et pour justifier son auto-glorification, il amène le point des œuvres. Au verset 12, hein? Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas comme lui parce que regarde, Éternel, regarde, Seigneur, tout ce que je fais pour toi. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et dans le système, dans les activités religieuses des Juifs, il y a comme un trio qui revient à plusieurs reprises. Jeûne, prière, jeûne, dîme. On se souvient dans Matthieu 6, presque tout le chapitre, la première phrase, c'est « Gardez-vous de pratiquer votre justice » devant les hommes, parce que vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père. Et au verset 2, 6-2, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu pries, entre dans ta chambre, puis prie pas devant. Et ensuite, ça dit, lorsque tu jeûnes, hein, ne défais pas ton visage. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je jeûne depuis 6 jours, je suis en train vraiment de... Et lorsque tu donnes la dîme, hein, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite pour sois pas en train de te glorifier, de monter à quel point tu es généreux. Donc, ces trois activités-là de la vie religieuse des Juifs, mais en même temps, pour les chrétiens, Jésus les a enseignés, Jésus l'a confirmé. Quand on pratique ces choses-là, est-ce qu'on le fait pour pareil? On commence avec le jeûne. Ici, il dit qu'il jeûne deux fois la semaine. La loi, sauf erreur de ma part, la loi ne demandait pas d'une façon stricte de jeûner. C'était pratiqué à l'occasion pour humilier son âme. Aussi, c'était associé à la prière pour se donner intensément à la prière. C'était aussi dans l'Ancien Testament associé au fait de demander pardon à Dieu. Quand tu réalisais ta faute, tu pouvais jeûner, humilier ton âme, demander pardon. C'était l'expression de ta repentance. Et Jésus a enseigné beaucoup le jeûne. Mais Jésus a dénoncé une pratique extérieure pour paraître une pratique sans vie. Et les pharisiens, eux, ils jeûnaient pour observer leurs règles qu'eux s'étaient établies. Hein? Bien des fois, les pharisiens arrivaient à Jésus, disaient, hey, comment ça, nous autres, on jeûne, puis eux autres, ils le font pas. Hey, déjà là, t'es pas dans la grâce, t'es pas dans l'amour, t'es pas dans l'obéissance. T'es dans nous autres, pour être supérieurs aux autres, on fait beaucoup d'efforts pour faire plein de choses. Puis une fois que nous, on va l'observer, on va aller vers le petit peuple, on va leur dire, hey, vous faites pas ce que nous, on fait. Il faut que vous le fassiez. Il y a quelque chose d'imposé. Et Dieu ne prend pas plaisir à de tels sacrifices. La dîme, en Matthieu 23-23, vous ne l'avez pas ici. Malheur à vous, vous payez scrupuleusement la dîme de tout. Imaginez, hein, ils payaient même quand il y avait des revenus en herbe, ils nomment certaines épices, puis ça valait pas grand-chose, tu sais, c'était peut-être une pièce et quart, mais ils donnaient la dîme sur une pièce et quart, puis nous autres, on fait tout scrupuleusement. Il dit, oui, c'est correct, il n'y a pas de problème à vouloir donner la dîme sur tout, les petites choses. Mais vous oubliez le plus important, la miséricorde et l'amour du prochain. Wow! Et Jésus complète en Matthieu 23 en disant, il fallait faire ces choses, mais en gardant une bonne attitude. Oui, Jésus n'a pas dit aux pharisiens, donnez plus votre dîme, donnez plus les aumônes, faites-le, mais en réalisant qu'il y a des choses bien plus importantes. Le Seigneur nous dit que, Matthieu 9, 13, qui est là. Qu'est-ce qui est le plus important à Dieu? Les sacrifices, ce qu'on fait dans notre service, jeûner, donner la dîme, faire plein de choses, je suis obéissant, ou la miséricorde. Matthieu 9, 10, 13 dit, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Et dans le contexte de Matthieu 9 ici, c'était encore les publicains qui étaient là, les gens de mauvaise vie, et comparé aux publicains qui disaient, hey, eux autres, ils ne devraient pas venir à toi. Jésus aime davantage celui qui reconnaît son besoin puis qui demande la grâce, la miséricorde de Dieu, que celui qui offre sa vie comme un moyen de justification, de dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de venir à toi en implorant ta grâce. C'est plutôt toi, Jésus, qui devrais me louer de comment je suis un bon chrétien, comment je suis un bon juif, comment je suis fait partie des pharisiens qui observent d'une façon scrupuleuse. Jésus, tu dois vraiment être fier de moi. Jésus a enseigné, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Jésus préfère pardonner à celui qui se reconnaît pécheur, le publicain, et lui faire grâce que de se voir offrir un paquet de sacrifices qui ne viennent pas du cœur, puis qui ont pour but de se glorifier, de se justifier devant Dieu. Et notre service, parfois, peut ressembler un peu à gagner la faveur de Dieu. Et je peux vous dire, quand j'étais un jeune chrétien, j'étais sérieux dans ma foi, je lisais la Bible, je priais, j'allais à l'église, et il y avait un côté de moi qui était vraiment là, c'était en réponse à l'amour de Dieu. Je venais de le connaître, puis il y avait quelque chose de beau, de saint dans ça. Mais avec le temps, avec les années, en regardant, il y avait un petit côté là performant, il y avait un petit côté pharisien de dire, ah, regarde, il y en a qui disent qu'ils ont accepté Jésus, mais ça paraît pas trop dans leur vie. Moi, je serais pas comme ça. Moi, je vais être intense, je vais être sérieux, je vais avoir de la consécration, je vais obéir, puis je vais avoir de la ferveur. Et d'avoir de la ferveur, de l'amour pour Jésus, c'est tout bien, ces choses-là. Là où ça devient plus bien, c'est quand tu penses que tu es meilleur que les autres, puis quand tu penses que Dieu, il t'aime un petit peu plus que les autres, que Jésus, il est plus fier de toi que les autres, parce que toi, t'es conséquent, toi, t'es bon. Et on finit par le croire que, non, on est tout égal, Jésus nous aime tous pareil, mais Jésus doit être un petit peu plus fier de moi. La vie supposément morale du pharisien n'a pas impressionné Jésus. Au contraire, son orgueil lui l'a grandement déplu. On doit avoir une vie morale en accord avec la parole de Dieu, oui. On a besoin de grandir dans l'obéissance, dans la maturité, mais on ne devrait jamais croire qu'on va impressionner le Seigneur et en tirer une gloire personnel. Notre seul sujet de gloire, c'est de se glorifier en Jésus. Il nous a sauvés. Il veut nous utiliser. Il veut prendre le contrôle de notre vie. Il veut nous accompagner. Il veut se révéler à nous. Est-ce qu'on est parfois comme ce pharisien? On se glorifie de nos bonnes habitudes chrétiennes, de notre sérieux. On vient à l'église, hein, et il y avait 3 activités religieuses, puis moi, ça me faisait penser aux 4 activités. Quand j'ai accepté le Seigneur, il y avait beaucoup l'exemple de la table, hein. Quand tu acceptes le Seigneur, il y a 4 pattes pour la table, il y a 4 fondements, il y a 4 choses importantes. Moi, j'ai dit ça, puis on me l'a dit, peut-être j'étais à Québec dans les années 83 et suivantes. Et la première patte de la table, c'était quoi? La parole, hein? C'était la parole, il faut que tu lises la parole, tu vas connaître Jésus, tu vas entrer en relation, tu vas connaître sa pensée et tu vas avoir l'enseignement du Maître Jésus. Donc la parole, ensuite la prière. Il faut prier sans cesse, mais il faut que tu aies un temps où tu viens devant Dieu. On en a besoin à tous les jours. Il faut prier. Ensuite, l'Église, hein, Dieu t'a placé dans une famille. Tu peux pas être toute seule et faire ta petite affaire. C'est pas bon pour toi. Aussi, tu vas servir tes frères et sœurs. Donc, l'Église a une partie importante. Et liée, on mettait pas l'offrande dans ça parce qu'on n'aurait pas voulu dire il y a 5 pattes à la table, puis la dernière patte, c'est l'offrande, là, parce que. Mais on avait un petit appui à cette patte-là de dire, et dans l'Église, c'est important de contribuer, et dans ta contribution, évidemment, un chrétien fidèle qui pratique les bonnes disciplines, il donne son offrande à chaque semaine, régulièrement, en étant. Donc, ça faisait partie de nos activités religieuses. Et la 4e patte importante, c'est le témoignage. Important de parler en Jésus, hein, si on parle de notre foi. Donc, c'était des bonnes choses. Mais on pouvait en venir au point que si on faisait bien ça, puis qu'on était sérieux, conséquent, qu'on se glorifiait devant notre Dieu. Ces choses-là sont bonnes. Mais si on se croit supérieur aux autres à cause de cela, on en vient à mépriser les autres, on devient un vrai pharisien évangélique. Et on pense aussi que Dieu nous aime un petit peu plus. On pense que Jésus, en nous regardant, il dit, wow, lui là, hey, toi là, Richard, là, toi là, André, Paul, Ginette, etc., toi là, écoute, j'aime tous mes enfants également, puis ils sont tous sauvés par la grâce, mais toi, là, tu es vraiment un petit peu plus. Dans notre cœur, on vient à croire ça. Verset 13. Les gestes et les attitudes traduisent ce qui vient du cœur. Et le pharisien, lui, il était debout, qui était une position normale, droit, les yeux au ciel, sans gêne. Dans sa gestuelle, il avait de quoi être fier de venir dans la présence de Dieu. Le publicain, lui, est à distance, la tête baissée, avec crainte, un respect. Il prenait conscience de son insuffisance devant l'Éternel. Il n'osait pas lever la tête, se frappait la poitrine. Son cœur était brisé et contrit et ça se voyait dans son corps. Le publicain, avec ses fraudes, avec sa façon de s'enrichir, où il n'est pas solidaire de son peuple juif, de son héritage de l'Ancien Testament. Le publicain, il reconnaît ses fautes, ses péchés, il en est brisé. Il a une vraie repentance en lui-même. Et la seule chose qu'il peut faire dans le secret, en étant rejeté par tout le monde, c'est de demander la miséricorde de Dieu. Il ne se présente pas avec sa justice, mais avec la justice de Dieu. On a ici la conclusion de l'histoire de la parabole, dans le sens, c'est pas la leçon. La leçon est donnée au verset 14, mais Jésus qui vient puis qui dit... Plutôt, oui, excusez, dans la conclusion, il dit, je vous le dis, celui-ci dans l'histoire descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Jésus, il tire les conclusions puis il dit, même si lui agit mal, devant Dieu, Dieu a plus de joie que celui qui agit bien puis qui s'élève puis qui se glorifie de son attitude. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et chacun d'entre nous, peu importe notre personnalité, peu importe qu'on est extraverti, introverti, qu'on est d'une personne qui attaque les autres ou d'une une personne qui est plus réservée, chacun d'entre nous, peu importe notre personnalité, on a besoin de s'humilier nous-mêmes. On a besoin de rentrer en nous-mêmes puis de dire, ça paraît beau devant les gens, je suis pas quelqu'un qui attaque, qui dénigre, qui s'élève par mes paroles ou mes actions. Mais chacun de nous, on a besoin devant Dieu de dire, Seigneur, visite mon cœur. Seigneur, montre-moi c'est quoi les pensées qu'il y a en moi. Et chacun de nous, on a besoin de s'abaisser. Parfois, la vie se charge de ça par des épreuves dans lesquelles le Seigneur nous forme, nous façonne, des temps intenses, puis même difficiles dans lesquels on vit une tristesse profonde dans notre cœur. Et là, notre cœur est en train de reconnaître nos limites, reconnaître notre faiblesse. On se pensait bien fort de dire, moi Seigneur, peu importe ce qui va m'arriver, je vais toujours vouloir te suivre, t'aimer, puis je ne manquerai jamais de ce désir-là. Et parfois le Seigneur met les circonstances où on arrive et on dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que personne. Puis moi aussi, Seigneur, j'arrive que ma batterie là, d'énergie spirituelle est à terre, que mon compte de banque spirituel dans mon cœur, Seigneur, j'en peux plus. Et c'est là qu'on reconnaît le Seigneur, c'est ta grâce, c'est la grâce. Moi, moi. Est-ce que quelqu'un pourrait me mettre la dernière? Exactement. J'aime bien le psaume 119 et il y a trois petits bouts qui sont un petit peu séparés, versets 77, 71 et 75. Mais quand on les relit, ça donne ce qui suit. En premier, il dit, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous laisse pas grandir en orgueil, puis qu'à un moment donné, il est trop tard, on est devenu un monstre. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Ensuite, il dit, il m'est bon d'être humilié. Reconnaître que notre cœur est comme un ballon qui est en dessous de l'eau qui veut toujours remonter à la surface, comme une plante qui veut combattre pour le soleil, faire sa place, puis qui grandit trop vite, mais c'est haut, c'est long, mais ça s'arrache tout seul. Hein? Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. On a besoin de reconnaître nos attitudes en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que personne née de nouveau. La prière du pharisien avait pour but de dire à Dieu combien il était bon. En étalant certains de ses exploits spirituels et en dénigrant les autres qui ne sont pas à sa hauteur. Et c'est là la difficulté dans notre cœur. Hein? Des fois, on a des bons élans du cœur qui sont positifs, puis parfois, on en a des mauvais. Puis moi, ce que j'ai toujours cet exemple-là pour ma vie, c'est comme si je mélangeais du sel puis du sucre, puis... Le sel, c'est bon, le sucre, c'est pas bon. Puis après ça, j'essaye de démêler les grains hein, par moi, mais pour moi, mes motivations bonnes puis mauvaises, ils sont tellement mélangés, c'est tellement dur à voir que j'ai de la misère à faire la différence entre les deux. Il y a une place pour être fier de notre marche chrétienne avec le Seigneur. Il y a une place pour être satisfait, de dire, Seigneur, je suis content des choix que j'ai pris dans ma vie. Je suis content parfois du prix que j'ai eu à payer, des gens qui m'ont rejeté, de l'argent que j'ai perdu parce que j'ai voulu être honnête, parfois du mépris que j'ai subi. On peut être fier que notre amour pour Jésus nous a amené à vouloir le suivre, puis des décisions importantes. Donc ça, c'est correct. Mais une fois qu'on a compris qu'on a obéi puis qu'on a accepté de payer le prix pour être un disciple, à partir de là, il faut ramener l'équilibre hein, pour dire que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Un beau verset dans Corinthiens. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça veut dire que, écoute, le simple fait d'être sauvé, de croire en toi, c'était pas parce que j'étais plus intelligent, j'ai été capable de voir la vérité, puis les autres, ils le voient pas, puis moi, je suis plus smart, hein, j'ai réfléchi longtemps, j'ai vu c'est Jésus qui est la solution. C'est l'œuvre de Dieu même de croire, c'est lui qui donne la foi, c'est lui qui ouvre les yeux de notre cœur pour venir à lui. Donc, à lui... le mérite à lui de dire, Jésus, merci de ce que tu as fait dans ma vie. Puis après ça, pour le suivre, toute notre obéissance aussi, à Jésus, la gloire. Donc, il n'y a pas lieu de se glorifier. Puis on a besoin de grandir comme chrétien pour dire, écoute, c'est pas parce que je fais les 1, 2, 3, 4, les quatre pattes de la table que je suis rendu loin, là. J'étais encore un bébé dans le Seigneur. J'étais encore un enfant. Deuxième chose, c'est pas parce qu'on fait bien qu'on veut se croire supérieur, plus important que les autres. À chaque fois qu'on se glorifie en disant, regarde, moi, je suis bien meilleur que, je suis plus sérieux. Quand on s'élève pour rabaisser les autres, on a besoin de compassion, on a besoin d'être indulgent. Puis on n'est pas bon quand on fait ça. On voit juste la juste réalité. On n'est pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est juste la vérité de réaliser que, non, Seigneur, j'ai peut-être eu des circonstances plus agréables, plus faciles. Est-ce qu'on sait ce que les autres vivent? Non. Est-ce qu'on les juge? On les condamne. Juger sévèrement, juger injustement. C'est ce que faisait le pharisien. Le pharisien, au lieu de vouloir aider celui qui est en difficulté, au lieu de tendre la main pour l'aider dans sa marche, il était en train de le condamner, puis il pesait dessus, puis il servait de ça pour s'élever. Comme enfant de Dieu, Jésus veut qu'on ait de la compassion, de l'amour pour notre frère qui parfois lutte dans sa marche avec Jésus. Puis nous, si ça va bien présentement, puis ça semble facile, humilité, on a besoin de se rabaisser, de dire, écoute, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être que je vais vivre ces difficultés-là et j'espère qu'on va me traiter avec compassion, avec indulgence, qu'au lieu de me condamner, il y a des gens qui vont venir pour me soutenir. On fait beaucoup d'efforts. On est sérieux dans notre marche dans le Seigneur. Et ça, c'est bien. Faisons attention de ne pas croire qu'on est tellement bon devant Dieu. Le seul mérite qu'on a, c'est Jésus. On n'a pas gagné la faveur de Jésus que Jésus dit, « Ah, maintenant, t'en as assez fait, je t'aime, je suis fier de toi. » On va terminer dans la prière. Merci Jésus pour cette petite histoire tellement simple, tellement frappante. Seigneur, tu vois qu'on veut être sérieux dans notre foi, on veut lire ta parole et être conséquent. Mais moi, le premier, tous ensemble, on veut te dire que bien des fois, on est exactement comme le pharisien. On connaît beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, puis à cause de ça, on pense qu'on est meilleur que les autres. On pense que tu es impressionné par nous. On pense qu'on a gagné ta faveur. Seigneur, je veux te demander pardon. Seigneur, on veut te demander pardon. Pardon de s'élever comme ça dans notre cœur. Pardon, Seigneur, de croire qu'on est des bons chrétiens. Seigneur, on veut se voir simplement comme des enfants faibles, démunis, qui avons besoin de ta grâce. Seigneur, à chaque jour, on veut se lever et on veut te dire, Seigneur Jésus, je suis comme ce publicain-là devant toi. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Seigneur, tu vois que je veux t'aimer, mais que je n'arrive pas à avoir une vie qui est conséquente, une vie qui est engagée. J'arrive pas encore à être la personne, le chrétien que tu voudrais que je sois. Mais je me repose sur ta grâce. Merci de ta patience, Jésus. Merci de ta bonté. Seigneur Jésus, apprends-nous à avoir un cœur qui t'est agréable. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Richard. Tu as mis la table pour le partage sur la Sainte-Seine. On peut applaudir par reconnaissance. Merci.